au quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour à tous et à toutes. C'est le jeudi 28 mai 2026. Aujourd'hui, une journée pas trop chaude, mais comme on les aime. En tout cas, moi, j'aime mieux ça que la grosse humidité. Et vous, Mathieu, comment allez-vous?
Ah, je vais très bien.
Oui.
Heureusement que la température, que les degrés Celsius ne suivent pas les dates.
Parce que sinon, il y aurait fait 28 aujourd'hui.
Exactement.
Ouais. Mais 28 sans facteur humidex, c'est quand même acceptable. Mm-hmm, ouais.
Tout à fait.
Et puis, est-ce que vous êtes venu travailler en Bixi?
Oui.
Comment ça se passe, l'expérience Bixi?
Dépendamment de l'heure à laquelle vous voulez un vélo, dépendamment de la station, dans ce coin-ci, vers 6h, 7h,
ouais.
Il n'y en a pas beaucoup.
Ah non!
Des fois, les stations sont vides, mais je marche un peu plus, puis j'en trouve partout. Il y a tellement de stations de Bixi.
Oui, hein? Ça pullule.
Ça pullule.
Donc, c'est pas un gros problème quand
non.
même. Surtout que vous aimez marcher.
Exactement.
Et là-dessus, je pense deux personnes qui aiment bien marcher, des promeneurs, non pas solitaires nécessairement, mais des promeneurs. Il s'agit de Monique Kerouac et Yvan Deslauriers, nos chroniqueurs du jeudi. Bonjour à vous deux.
Bonjour, Hélène.
Alors, Monique, aujourd'hui, vous allez nous parler de hockey.
Ben oui, exceptionnellement, je pense que ça rattrape tout le monde.
Hein. Oui, pas mal.
Même la recherche universitaire s'y intéresse. En tout cas, on a branché un professeur-chercheur qui s'appelle David Hoges de l'Université de Montréal. On lui a demandé certaines informations sur le potentiel de l'hypnose, surtout auprès de personnes aussi importantes que Jacob Dobèche, qui, grâce à qui, je pense, il sauve un peu le visage... l'image de notre équipe.
Ah, il est pas mal bon. Il est assez admirable.
Il est pas mal bon. Alors, ouais. On va voir que l'hypnose sert à la préparation mentale sportive comme dans certaines situations médicales.
Merci. Yvan, bonjour.
Bonjour, Hélène.
Vous allez vous parler de hockey féminin.
En fait, je pense que toutes mes interventions sont féminines aujourd'hui.
Ah oui?
Donc... les brèves aussi. Donc, je vais parler du triomphe, de la victoire qui a gagné la Coupe Walter à la fin de la semaine dernière. Je me souviens, quand on s'est parlé en ondes la semaine dernière, on se demandait d'où venait le nom Walter, mm-hmm. Puis on a élucidé ce mystère. C'est un article dans la presse qui relate un petit peu ce qui s'est passé vers la fin de la partie de la semaine dernière pour la victoire, c'est un peu compliqué, et ce qui s'en est suivi par la suite.
Bien, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Et hier, Monique, je pensais à vous parce qu'à la une du Devoir, on parlait des vainqueuses. Les vainqueuses qui sont les gagnantes de la victoire. Alors, je ne sais pas si c'est un mot inventé ou quoi. On va mettre une femme là-dessus?
Je vais regarder.
Une femme dont les initiales sont MK?
Oui.
À suivre.
Oui.
Alors, sinon, qu'est-ce qu'on aura au menu à part les chroniques d'Yvan et de Monique? Nous aurons de la visite de... Hamid Terzi, qui est le directeur général de l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal, qu'on appelle aussi ALPHA. ALPHA, pourquoi? Parce que anciennement, l'association portait le nom de l'Association de loisirs des personnes handicapées autonomes et on a décidé de conserver ALPHA malgré le changement de nom de l'association. Hamid Terzi sera avec nous autour de 10h44. Les parasports avec Dominique Tremblay. Et de la bonne musique. Hier, on vous a fait entendre une version spéciale. Ben, c'était remasterisé, assez enveloppé, presque métal de Débranche, et on l'a débranché assez vite. Alors, allons-y donc avec la version originale, Débranche et France Gall.
Restez maître du temps et des ordinateurs. Retrouvons-nous d'un coup au temps d'Adam et Ève. Coupe les machines.
Des branches et France Gall, ou c'est France Gall et des branches?
Oui, merci Mathieu. À la une du devoir d'aujourd'hui, on a l'ex-champion de wakeboard, Benjamin Leclerc, 32 ans, qui vit avec, qui est tétraplégique, des soins à domicile volatilisés. Une histoire racontée par Isabelle Porter, et je vous la résume. C'est l'ancien champion de wakeboard, Benjamin Leclerc, qui est devenu tétraplégique après un accident il y a 9 ans, qui dénonce une importante réduction de ses soins à domicile par le CI3S ou le CIS de la Montérégie-Ouest. Ses heures de service sont passées de 107,5 à 56 heures par semaine, compromettant son autonomie et sa qualité de vie. Il dit tout à coup dans leur plan, là, tu ne soupes plus, tu ne te couches plus, tu n'as personne qui veut t'aider le soir. Grâce à ses soins, le vidéaste de 32 ans pouvait jusqu'ici travailler et mener une vie active malgré son handicap. Il affirme toutefois que depuis un an, plusieurs services essentiels ont disparu, notamment l'aide de nuit pour éviter les plaies de lit. Selon lui, le réseau cherche à décourager les personnes lourdement handicapées de rester à domicile. Benjamin Leclerc raconte aussi avoir été informé par son travailleur social que le réseau de la santé était sous pression et cherchait à faire des économies à l'aide d'une nouvelle grille d'évaluation. Le CISMO nie toutefois avoir imposé des coupures de services et assure qu'aucun usager n'a subi de rupture de services essentiels. Des organismes de défense des personnes handicapées affirment cependant avoir recensé des dizaines de cas semblables ailleurs au Québec. Ils dénoncent une violence administrative et disent que plusieurs patients se sentent culpabilisés lorsqu'ils demandent les soins nécessaires à leurs conditions. L'organisme Moelle épinière et motricité Québec, le MEMO, dit avoir accompagné des dizaines de personnes qui se retrouvent dans la même situation. Son directeur général, Walter Zelaya, est convaincu qu'il y a une directive ou une orientation dans le réseau demandant de réduire des heures consacrées à certains pour permettre à d'autres d'avoir accès aux services. Monsieur Zelaya dit, « On ne se rend pas compte à quel point on attaque la dignité des personnes. » Le député Vincent Marissal a aussi répertorié de nombreux cas du même genre à son bureau de circonscription dans Rosemont. Le 7 mai, il a interpellé la ministre de la Santé au Parlement à ce sujet. Savez-vous ce que Santé Québec envoie comme mémo aux gens? On ne vous coupe pas des services, en fait, c'est que vous en avez trop, a-t-il lancé. La ministre de la Santé s'est dite très surprise d'apprendre cela. À la une de la presse maintenant, il y a le hockey. Hurricanes 4, Canadiens 0. Les séries 2026 laissées à lui-même, Jacob Dobesch a fait ce qu'il a pu, mais l'attaque du tricolore est tombée à plat. Une fois de plus, résultat, le CH fera face à l'élimination demain à Riley. Et on voit Dobèche qui semble découragé, c'est dommage. C'était sa fête hier, lui qui célébrait ses 25 ans. Puni pour la mort de son père, une chronique absolument hallucinante de Patrick Lagacé, la rigidité bureaucratique de Québec empêchera un jeune Guinéen de terminer une formation pour laquelle on l'avait accueilli. Une histoire absurde et on espère bien que la chronique de Lagacé fasse avancer le dossier dans le bon sens et que le MIFI, qui est le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, révise ses positions, revienne sur sa décision. Je vous invite à lire cette chronique qui parle de cruauté bureaucratique de l'immigration québécoise dans toute sa splendeur. Et j'ai pas vraiment le temps de lire toute la chronique, mais bref, parce que son père a eu l'outrecuidance de mourir accidentellement parce que son école a dû reporter le début de ses études par manque d'élèves, eh bien, Boubacar ne peut pas finir les 300 heures manquantes pour obtenir son diplôme. Il ne pourra pas travailler dans un domaine où les employeurs au Québec s'arrachent les mécaniciens de machines fixes. Qu'est-ce que ça fait, un mécanicien de machines fixes? Eh bien, entre autres, ça répare des systèmes thermiques dans les grands immeubles. Et puis, à la une du Journal de Montréal, on parle évidemment de hockey. On voit le visage défait du coach de l'entraîneur des Canadiens de Montréal et on comprend pourquoi. Martin Saint-Louis, au pied du mur, bouton panique ici. Il y a un doigt là, qui est sur le bouton. Là. On commence à paniquer puis on commence à désespérer, mais comme dirait l'autre, c'est pas fini tant que c'est pas fini.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors j'étais accompagné, on a chanté, on a dansé et on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Deux inconnus.
Et ce matin, sur l'avenue,
deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Connu Étienne Copé et sa version de la chanson Les Champs-Élysées.
Oui, une belle reprise d'un succès de Joe Dassin, Les Champs-Élysées. C'est pas là quand même que la victoire fera son défilé samedi. Ça va être plutôt dans le centre-ville.
même si j'adore Étienne Copé quand même.
Oui, ça va être dans la rue Sainte-Catherine, entre les rues Bleury et Clark. Et l'événement sera gratuit. Les festivités vont se terminer à 13 heures pour se commencer à 11 heures. Est-ce que vous serez là, vous, Yvan?
Mon Dieu, de ce temps-ci, je ne sais pas tellement qu'est-ce que je fais quelques heures d'avance.
Oui,
alors,
oui.
Je ne sais pas.
Bon, alors, ça reste un point d'interrogation. Peut-être que si vous y allez, vous allez nous en parler la semaine prochaine. Mais pour tout de suite, vous parlez quand même de la victoire, championne de la Coupe Walter. Un article que vous avez trouvé dans la presse, « Le triomphe de la résilience ».
Oui, c'est un article de Jean-François Théotonio la semaine dernière, le 21 mai. Il commence par nous décrire le but important de cette partie, de cette dernière partie. La victoire était en désavantage numérique. C'est Marie-Philippe Poulin qui était au banc des pénalités. Et il y a une règle particulière au hockey féminin, c'est que si l'équipe qui est en désavantage numérique compte, la personne qui est au banc des punitions sort. Alors, c'est comme pour récompenser le fait que l'équipe a réussi quelque chose de vraiment très bien. Donc, Abby Roque est en désavantage numérique. Elle transporte la rondelle sur près de 200 pieds, donc à peu près la longueur complète de la patinoire. Elle a déjoué la gardienne ottavienne d'une feinte magistrale. Elle a inscrit le but d'assurance, celui du 2-0 en troisième période face à la charge d'Ottawa. Celui qui permettait à Marie-Philippe Poulin de sortir du banc des pénalités. Celui qui permettait à ses coéquipières de rejoindre la meilleure joueuse de sa génération pour célébrer. Celui qui venait carrément d'assurer un tout premier triomphe à la Coupe Walter pour la victoire de Montréal. Les dernières minutes de ce match numéro 4 se sont écoulées. Les Montréalaises en ont enfilé deux autres. Anne-Renée Desbiens a complété son blanchissage. La victoire l'a emporté 4-0 et l'histoire, avec un H majuscule, s'est écrite. Puis, les confettis sont tombés, le trophée a été soulevé, Poulin a été nommée joueuse par excellence des séries, le moment a été immortalisé et la bière a coulé. Abondamment. C'est Corey Chevry qui est l'entraîneur de la victoire. Elle dit « On était obsédés par la poursuite de cet objectif ». Elle qui parlait complètement détrempée de cervoise, de la tête aux pieds, sur la glace. Elle dit « On a appris lors des deux premières années à quel point ça allait être difficile de bâtir une équipe pour gagner. » Ce qu'elles ont fait, c'est ce qu'elles ont fait, gagner. À travers les blessures majeures à des joueurs majeurs, à travers des péripéties comme la maladie et le report d'un match crucial en série, à travers des matchs serrés au possible dans tout le parcours éliminatoire et particulièrement dans cette finale face à la charge d'Ottawa. Where's Walter? Puis là, il y a un juron. Lance Catherine Dubois en apparaissant dans notre champ de vision lors des célébrations d'après-match. Elle cherchait la coupe, la canette à la main, Dubois, cette joueuse qui a oscillé entre l'équipe de réserve et le premier trio au cours de sa carrière avec la victoire. Que vas-tu retenir de cette saison triomphale, Catherine? Que l'union fait la force, répond-elle du tac au tac. En série, il faut vraiment s'unir. C'est tout le monde ensemble. Ça aurait été particulièrement important lors du match de deux jours auparavant, de mercredi. Ottawa a tout donné jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la chaîne débarque en troisième. Après sa défaite crève-cœur dans le match numéro 3 de lundi, c'est comme si la victoire avait pris la décision commune de ne plus rien laisser passer jusqu'à des biens. Certes, la Grande Muraille de Charlevoix, c'est le surnom de Anne-Renée Desbiens, a été impériale dans ce match numéro 4, terminant ses séries avec une moyenne de 1,40 et un pourcentage d'arrêt de 944. Elle aurait même très bien pu être choisie joueuse par excellence. Mais les tirs bloqués ont été l'histoire de cette rencontre pour Montréal. Il y en a eu 15 au total, mais les 4 consécutifs accomplis par Maureen Murphy, Hayley Scamura et Laura Stacey en deuxième période ont particulièrement donné le ton. On savait que ça allait faire mal, explique Desbiens. On savait qu'on allait avoir besoin de sacs de glace. Les filles ont démontré que pour gagner, il faut que tu sois prête à faire ces choses-là. Aujourd'hui, on avait du cœur, on a travaillé fort, on a compté des buts et on l'a gagné. Un mot pour décrire cette équipe, c'est résilience, a ajouté Laura Stacey. Chaque fois qu'on est tombé, on s'est relevé encore plus forte. C'est ce qu'on a fait ce soir après la défaite du dernier match. On a été malade, on a eu des blessures, notre équipe a fait face à tout et a remonté la pente à chaque fois. C'est exactement pour cette raison que nous sommes championnes de la Coupe Walter. Le thème de la résilience est revenu souvent au fil des entrevues sur la patinoire à travers les confettis et les canettes vides. C'est entre autres ce qui a fait monter les larmes aux yeux de Daniel Sauvageau, qui regardait la scène sur la glace avec émotion. Daniel Sauvageau, on le sait, c'est la directrice générale du club. Elle dit « c'est un bonheur, c'est une fierté, c'est une admiration » en parlant des joueuses. Ces femmes-là n'auront plus jamais le droit de dire que c'est trop difficile. Elles l'ont fait. Elles ont creusé, elles ont puisé. On a eu des joueuses qui ont perdu des membres de leur famille, qui ont dû quitter l'équipe. Chacune a sa propre histoire. Et aujourd'hui, l'histoire qui nous relie, c'est une coupe. Une coupe qui est très pesante en passant. Caroline Ouellette, qui est l'adjointe de Chevry, était presque déjà nostalgique de cette saison victorieuse. Elle, qui était encore entourée des joueuses et de leurs proches lorsqu'on l'a abordée. Elle dit « Je vais toujours me souvenir d'une saison où différentes joueuses ont élevé leur jeu d'un cran à différents moments », a-t-elle mentionné. D'une équipe qui voulait vraiment gagner par-dessus tout, qui voulait gagner l'une pour l'autre. Il n'y avait pas de gros égos. Elle voulait toute la Coupe Walter. Et ça, c'est tellement puissant comme sentiment. Ce qu'elle voulait le plus, c'est gagner par-dessus tout. Et c'est ce qu'elles ont fait. Ce qui veut dire qu'enfin, après avoir écarté tous les doutes, la victoire de Montréal pourra porter son nom en toute connaissance de cause. Alors, c'était le récit de ce qui s'est passé autour de la dernière partie de la victoire. Et comme vous disiez, Hélène, il y aura parade ce samedi.
Oui.
Et je pense que c'est important de souligner. Ben, je pense que les Montréalais, depuis le début du printemps, sont à la fête à cause de la victoire, à cause du Canadien. La semaine dernière, à cause du Grand Prix. Alors, je pense que c'est une belle suite qui sera donnée samedi lors de cette parade. Et je voulais finir par commenter un petit peu toute la déception qu'il pourrait y avoir à partir du match d'hier et probablement de la manière dont les choses se présentent.
Le match des Canadiens de Montréal avec les Hurricanes de la Caroline.
De demain. Puis j'ai l'impression, je me répète, il me semble que j'étais dans le studio il y a un an, puis on avait parlé à peu près de la même chose. Si au mois d'octobre, on nous avait dit le Canadien va se rendre en finale de division, il va gagner en séries éliminatoires, va gagner 9 matchs, on aurait tous signé en bas de la feuille en disant hey, ça va être une année fantastique. Faudra pas oublier tout le travail et toute la progression que cette équipe a démontré pendant la saison. On a peut-être découvert un gardien de but. On a des joueurs d'avant qui ont atteint des sommets intéressants. On a un défenseur, un petit défenseur de rien du tout qui a l'air d'un lapin énergisaire tout le temps. Je pense qu'on a une équipe pour nous faire veiller tard pendant plusieurs années à venir.
Oui, j'entendais hier, c'était Martin Leclerc et Marc-Antoine Godin qui étaient à Radio-Canada qui avaient la même philosophie que vous. En disant, ben c'est extraordinaire ce qu'ils font. Et il y a plusieurs équipes comme ça là, qui se sont préparées puis qui s'en allaient toujours vers le progrès et qui, à un moment donné, a gagné la Coupe Stanley plus d'une année, de façon consécutive, en tout cas. Alors, on s'en va peut-être vers là, là parce qu'on a d'excellents joueurs qui ont du cœur au ventre. Quelquefois, vous parliez des victoires, de la victoire qu'ils voulaient gagner. Je pense que le Canadien veut gagner, mais il y en a d'autres aussi qui veulent gagner.
Oui, oui, oui. Puis, force est d'admettre que les Hurricanes de la Caroline sont une très belle équipe, qui sont costauds, ils sont rapides, ils sont pesants. Puis, ils ont eu plusieurs jours de repos avant de...
Oui, ça, ça compte.
Et... Alors, tout ça mis en compte, on veut pas, je veux pas trouver des excuses particulières, mais juste tenter d'expliquer que... Moi, j'ai beaucoup de satisfaction à les regarder jouer, même au point où ils sont rendus présentement.
Et pensez-vous qu'ils vont la gagner, celle de vendredi?
J'en doute fort. Je serais très heureux, mais j'en doute fort.
Bon. À suivre. Merci beaucoup, Yvan, pour tout ça. Vous restez avec nous. Restez pour aussi la chanson de Vanille, Suivre le soleil et la chronique de Monique qui va parler de Jacob Dobèche.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi, le ciel orange et bleu, la lumière à travers les lilas. Oui, je sais. Pour toi, l'or et le vermeil couleraient dans les ruisseaux, comme tes yeux dans le ciel te feraient le monde beau. Le monde beau. Si tu ouvrais les yeux juste pour voir un peu devant toi.
Vanille et sa chanson Suivre le soleil.
Vanille, qui fait partie des 10 artistes en liste pour le prix Félix Leclerc de la chanson 2026 qui a été annoncé ce matin. Alphonse Bisaillon en fait partie également. Marie-Céleste, Camilou, Naomi, Édouard Tremblay-Grenier, Kinji, Marco, Emma, Lisandre et Grand Eugène. Le prix Félix Leclerc qui a été créé il y a 30 ans, en 1996. Ce prix de la chanson vise à stimuler la création chez les jeunes auteurs, compositeurs, interprètes ou les jeunes autrices, compositrices, interprètes et à encourager la production et la diffusion de la chanson francophone. Alors, on aura le nom du gagnant ou de la gagnante lors de la 37e édition des Franco de Montréal qui s'en vient quand même bientôt. à partir du 12 juin, 37e édition. Là-dessus, on joint Monique qui nous parle hypnose et sport.
Oui, Hélène, alors c'est une nouvelle qui a été publiée dans UDM Nouvelles, justement, le 25 mai dernier. C'est sous la plume de Béatrice Saint-Cyr Leroux qui a interviewé le professeur chercheur David Ogez. Alors, ils incarnent force mentale et concentration sans faille. Ils endossent la double responsabilité d'être les héros, et pas les héros, ou les coupables selon leur performance. Ils sont reconnus pour leur personnalité singulière, voire excentrique. On parle ici des gardiens de but du hockey professionnel qui semblent former une classe de sportifs à part. Et Jakub Dobesch, le gardien des Canadiens de Montréal, qui brille depuis le début des séries éliminatoires, ne fait pas exception à la règle. Alors, derrière ces prouesses physiques se cache une gymnastique mentale tout aussi robuste. C'est une préparation psychologique qui est encadrée par Pete Fry, qui dit faire de l'hypnose pour se rendre dans le subconscient. Alors, David Ogez, qui est expert en hypnose dans des contextes de douleur, de soins palliatifs et d'anxiété, professeur au département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur de l'Université de Montréal, et également clinicien-chercheur au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, nous explique comment c'est possible. Il répond donc à 6 questions que la journaliste Béatrice Saint-Cyr Leroux lui a posées. Alors, la première question. Les techniques utilisées dans le sport ressemblent-elles à celles employées en hypnose médicale? Alors, il nous répond, il s'agit de techniques très proches de celles utilisées en effet en milieu hospitalier pour préparer des patients à des soins difficiles, ainsi pour réduire l'anxiété, pour améliorer la concentration et pour transformer les pensées automatiques. Dans le sport, on recourt à la visualisation pour faire voir une réussite plutôt qu'une difficulté. Ainsi, un gardien de but comme Jakub Dobesch peut se représenter en train d'arrêter un tir ou un attaquant en train de marquer. L'idée est de créer une imagerie mentale de réussite en mobilisant les différents sens comme si l'expérience était réelle. Alors, qu'est-ce qui distingue l'hypnose d'une simple visualisation? C'est la deuxième question. On parle d'hypnose lorsqu'on ajoute un phénomène de programmation lié aux suggestions post-hypnotiques. Alors, ces suggestions post-hypnotiques, elles ont lieu pendant la transe hypnotique, mais elles sont utilisées par la suite. Alors, pendant la séance d'accompagnement qui suit l'hypnose, l'athlète vit une expérience mentale de réussite. Il va visualiser qu'il arrête un tir, qu'il est performant. Ensuite, grâce à des mantras, des pensées ou des gestes précis, il peut retrouver cet état lorsqu'il en a besoin. L'objectif est que se reproduise automatiquement en situation réelle, par exemple sur la glace, ce qui a été vécu durant la séance d'hypnose. On ferait la même chose pour un patient phobique ou un patient qu'on va préparer pour des soins médicaux. C'est de l'hypnose associée à un travail de visualisation. Alors, la troisième question, que se passe-t-il dans le cerveau lorsqu'on visualise une performance? Eh bien, selon certaines recherches, notamment en contexte d'anesthésie, le cerveau peut réagir comme si l'expérience mentale était réelle. Des travaux ont montré que des patients plongés dans une visualisation hypnotique pouvaient ne pas ressentir ce qui se passait en salle d'opération. Cela indique que l'imagerie mentale peut activer des réponses cérébrales proches du réel, ce qui explique son utilisation dans le sport ou dans la thérapie. Quatrième question, ces techniques servent-elles aussi à combattre les pensées négatives? Alors ici, on parle d'inversion. C'est un travail de restructuration des pensées, comme on pourrait le faire en thérapie avec des patients anxieux, où l'on remplace des réflexes mentaux par des pensées plus aidantes et plus positives. Par exemple, pour un gardien de but, on transforme une pénalité, et donc un désavantage numérique, en un défi pour lui. Ça se compare aux thérapies cognitivo-comportementales élaborées notamment par le psychiatre Aaron Beck. Et ça, il a énoncé ces théories durant les années 1960. Il y a aussi plusieurs techniques de préparation mentale utilisées dans le sport qui sont inspirées de la programmation neurolinguistique, où on cherche à provoquer certains états mentaux. Un athlète peut ainsi être amené à se reconnecter mentalement à son meilleur match pour retrouver les émotions positives associées à cette performance. Cinquième question. Le gardien Jakub Dobesch semble avoir plusieurs rituels lors des matchs. Alors, comment les routines et les mantras peuvent-ils aider à la performance? Alors, les routines agissent comme des ancrages. Un geste répétitif, une phrase ou un rituel deviennent progressivement associés à un état mental particulier. Le fait de se répéter « je suis un mur » peut devenir une manière de retrouver rapidement un sentiment de confiance et surtout de contrôle.
« Je suis un mur ».
Un mur. Il doit se le répéter au moins 48 fois, en tout cas hier, je pense.
Ouais, peut-être.
On peut même comparer ces mécanismes à certains processus observés dans les troubles obsessionnels compulsifs. Dans les deux cas, les rituels servent à diminuer l'anxiété. La différence est qu'en préparation mentale, ces techniques sont utilisées volontairement et dans un cadre précis. Ça renforce l'automaticité, soit des pensées ou des réactions qui émergent sans effort conscient. La sixième et dernière question, pourquoi ces techniques sont-elles particulièrement importantes chez les gardiens de but? Alors, je pense qu'on le devine, ces athlètes évoluent dans un contexte très exigeant mentalement. Ils sont isolés, constamment sous pression et disposent de très peu de marge de manœuvre. Comme la moindre distraction se solde par un but, la concentration devient essentielle. Plusieurs grands athlètes ont développé des routines très précises pour maintenir leur attention. Certaines techniques consistent, par exemple, à considérer chaque action comme la première du match, afin d'effacer mentalement l'erreur précédente et de rester concentré sur le moment présent. Ben, peut-être qu'en conclusion, Hélène, tous les joueurs du Canadien devraient peut-être suivre quelques séances d'hypnose. Peut-être le font-ils, je ne le sais pas.
Ça se peut. Mais je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde. Je sais que en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout une joueuse de hockey, mais on a tenté un jour de m'hypnotiser, puis ça fonctionnait pas du tout, du tout.
Ah non? Ben, écoutez, peut-être que c'était pas la bonne personne.
Ah, peut-être. Ça se peut.
Peut-être, je sais pas. Ouais. Écoutez.
Mais il y en a qui sont facilement hypnotisables. On l'a vu avec Mesmer, on est dans un autre registre, là, mais il claque des doigts, puis la personne fait la poule. Mais,
oui, exactement. Mais peut-être que la visualisation serait un meilleur outil pour vous.
Ah, peut-être. Oui.
Alors, je me permettrai, Hélène, d'ajouter, de parler d'une nouvelle non négligeable.
Le nouveau scientifique en chef du Québec, vous avez son nom, bien, on le sait depuis hier, là, mais parlez-nous-en.
Oui, alors c'est ça, le ministre Drainville a nommé ce nouveau scientifique en chef du Québec qui remplace M. Rémi Quirillon, qui, il faut le dire, fut le premier à occuper ce poste durant 15 ans.
Quand même.
Et il s'agit du cow-boy fringant, comme vous le dites si bien, Hélène, Jérôme Duprat, qui est environnementaliste et prof en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, il faut savoir qu'en parallèle de sa carrière de bassiste, il a poursuivi ses études en biochimie, puis en géographie à l'Université de Montréal, où il a obtenu son doctorat en 2014. Et puis, il a fait un petit rallongé, un postdoc en biologie à l'Université McGill.
Juste ça.
Juste ça, en faisant de la musique. Hein.
Est-ce qu'il reste quelque chose, Monique, après le postdoctorat?
Non, je pense qu'on peut faire jusqu'à 2 ou 3 postdoctorats, mais après ça, ben, on est assez spécialisé, il faut commencer à travailler.
On peut vivre.
Ben, c'est pas toujours facile parce qu'ils sont tellement spécialisés que c'est des postes très nichés. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique et professeur, comme je disais, au département des sciences naturelles de l'UQO. Il est spécialisé dans l'évaluation de la valeur économique des services rendus par la nature. En 2021, il a été nommé au comité consultatif sur les changements climatiques, un organisme chargé de conseiller le gouvernement du Québec en matière environnementale. mental. Alors, je peux peut-être rappeler que le rôle du scientifique en chef du Québec, c'est de faire des recherches suite à des questions que posent des membres du gouvernement pour les conseiller sur ces mêmes questions. Si jamais vous êtes curieux, vous pourriez regarder ou réécouter « Tout peut arriver », animé par Marie-Louise Arsenault. Celui du samedi 16 mai, il y avait une magnifique entrevue avec M. Rémy Quirion. Très intéressant.
Parfait. Et c'est drôle parce que j'entendais l'animateur de Tout un matin, le Patrick Masbourian ce matin, oui, qui est en entrevue avec Jérôme Duprat. Et j'avais cette idée aussi que c'est le ministre Bernard Drainville qui a nommé le militant des Cowboys Fringants, le militant environnementaliste et bassiste des Cowboys Fringants, Jérôme Duprat, au poste de scientifique en chef du Québec. Alors, je ne sais pas si ils vont chanter ensemble une chanson des Cowboys un jour, ça pourrait peut-être aider Bernard d'être sur la note.
En tout cas, il faudrait l'envoyer à l'effet Lara, parce que...
L'effet Lara, oui, c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a de l'espoir, mais en tout cas...
Non, il n'y en a pas beaucoup,
non,
je pense.
Chaque chose a sa place, chacun fait son rôle.
Chacun ses spécialités,
oui,
Hélène.
Mais on peut dire que Jérôme Duprat a plusieurs cordes à son arc, en tout cas.
Tout à fait, ça va être un beau défi pour lui,
oui,
parce qu'il faut avoir une certaine neutralité quand même.
On lui souhaite bonne chance, bon succès, puis on va suivre ce qu'il fait avec beaucoup d'intérêt, surtout vous, Monique, j'en suis convaincue.
Oui, tout à fait, Hélène.
Un retour à l'époque disco, ça va peut-être vous donner envie de danser sur cette journée qui est jolie, mais qui manque peut-être un peu de soleil. En voici en musique.
Yvonne Elliman, If I Can't Have You.
If I Can't Have You! Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs, Monique ou Yvan?
Ben, en tout cas, ça nous fait danser.
Oui.
Oui,
c'est
bon.
C'est plutôt ce genre de souvenirs-là que ça me rappelle.
Pardon?
C'est les soirées de danse.
Oui, les soirées de danse dans les boîtes de nuit, les discothèques. Mais je pense que discothèque, c'est pas le mot qu'il faut employer. En tout cas, nous autres, on disait on s'en va à la discothèque, mais une discothèque, c'est là où on sert, on range les disques.
Mais, bon, un autre mot à chercher.
Et qu'on en a des mots à chercher.
Oui.
Bon, alors, en attendant, Yvan, vous avez une très bonne nouvelle à nous annoncer.
Oui, je vais essayer de vous raconter ce que j'ai vécu autour de cette nouvelle-là. Alors, ça fait plusieurs semaines que je vous parle de Shauna Burke, qui est une alpiniste, une universitaire, qui a étudié beaucoup l'effet de l'activité physique sur des personnes qui souffrent d'une maladie importante, dont le cancer, et elle-même a reçu le diagnostic d'un cancer stade 4 il y a 2 ans, et elle s'était donné l'objectif de se rendre jusqu'à l'Everest. Elle avait déjà monté à l'Everest en 2005. C'était pour elle un objectif d'être la première femme avec un cancer stade 4 à réussir l'exploit. Alors, samedi soir, j'étais allé voir un spectacle. J'arrive à la maison. Le hockey jouait, c'était la 3e période. Et je regarde sur ma tablette parce que je suis sur Instagram toutes les nouvelles qui touchent Shauna Burke. Et je vois, il y a comme un journaliste de l'Everest qui donne des nouvelles régulières. Et à un moment donné, il y a un grand sourire et il nous dit, j'aimerais vous dire, c'est en anglais, mais j'aimerais vous dire que à 3h AM, donc probablement dans la nuit de vendredi à samedi, à 3h samedi matin, Shauna Burke a atteint le sommet de l'Everest.
Wow.
Et là...
Prodigieux.
Oui. J'en parle, puis j'ai encore des émotions.
Des frissons.
Oui. Parce que on avait, Francine Forget et moi, on avait interviewé Shauna avant qu'elle parte. C'est une histoire humaine étonnante. Hors du commun. Et j'en rajoute 2 couches. La première couche, c'est que suite à cet exploit-là, je vous ai envoyé le petit clip du monsieur
qui
déclare ça. Je l'ai envoyé à des amis, tout ça. Et j'ai écrit à Shauna parce qu'on avait... On avait communiqué ensemble pour préparer l'entrevue de Au-delà des limites.
Est-ce que vous avez répondu?
Alors, elle a répondu.
Ah, wow! Hey, quelle générosité!
Juste une petite phrase. Elle a juste dit « Merci beaucoup pour votre message avec 3 mains qui sont jointes. » Tout ça. Je ne peux pas imaginer, après avoir fait tout ça, elle descend tranquillement puis elle répond à 2 personnes de Montréal. C'est incroyable. Incroyable. Et vous pouvez aller voir aussi sur Instagram, présentement, il y a eu comme une cérémonie de remise de certificats pour les gens qui ont monté l'Everest. On dirait que, je connais pas beaucoup la situation de l'Everest, là, mais on dirait que la saison pour monter à l'Everest est terminée, probablement pour des questions de météo. Alors, il y a une remise de certificats pour les gens qui l'ont... Fait que ça fait drôle un peu de voir Shauna Burke habillé en tous les jours, quand on l'a vu avec tous ses manteaux et tout ça pour monter l'Everest. Ça donne un mini-choc. Mais c'est une histoire étonnante et je voulais vous en parler dans mes brèves.
Oui, étonnante et surtout émouvante. Et on lui souhaite, j'allais dire, longue vie parce que, bon, dans l'état dans lequel elle est condamnée, paraît-il, là, un cancer de stade 4, malgré que les miracles, ça se peut aussi. Mais
oui.
En tout cas, elle a atteint son but.
Puis il faut se souvenir que dans l'entrevue qu'on avait faite avec elle, vous pouvez la rattraper sur le site de Canal M, on lui disait comment ce qu'elle faisait, ça semblait inaccessible pour nous, simple humain, pour faire des choses semblables. Puis elle nous avait dit, vous avez chacun votre Everest. Il s'agit juste de trouver la façon pour s'y rendre.
Oui, une philosophe en plus, Shauna Burke.
Oui.
Mais on n'a pas entendu parler beaucoup là, de cet exploit-là sur les médias traditionnels.
Non, vraiment pas. Puis la prochaine brève que je vous donnerai, c'est le même phénomène, vous allez voir.
Parfait. Monique, à quel moment de la journée les plantes grandissent-elles surtout?
Ben, c'est en après-midi, Hélène.
Ah oui?
Oui, et la preuve avec la plante modèle, c'est une plante que je ne connaissais pas, c'est l'arbalète des dames ou de Thalius. Je vous épargne le nom latin, qui pousse toujours plus en fin de journée. Les plantes comptent en quelque sorte le nombre d'heures de lumière reçues chaque jour, nous décrit le biologiste Joshua Gendron à l'Université Yale de New Haven. Et elles accélèrent leur croissance seulement lorsqu'un quota d'heures de lumière est atteint. Alors, lorsque les jours allongent, au printemps et en été, les conditions sont optimales. Un seul gène, appelé MIPS1, semble gérer cette horloge et sa suppression engendre des défauts de croissance pendant les longues journées, mais pas pendant les courtes.
Alors, ça
Vous en savez plus sur la croissance des plantes, Hélène.
Oui, surtout l'arbalète. Mais c'est arabette des dames.
Ah, je me suis trompée. Oui, j'ai dit arbalète. Hein. Oh là là, arabette, excusez-moi. Je fais des courbettes.
Une expression qui est rigolote quand même. Mais oui. C'est bien arabette des dames.
Oui,
je vois
oui,
ça
oui,
sur
oui,
le site de l'Herbier du Québec. Continuez, Yvan.
Toujours sur l'Everest, au sommet de l'Everest, le 20 mai dernier, donc il y a une semaine et un peu plus, il y a une personne qui s'appelle Emmanuel Salambo Degara, qui est une avocate et chef de la conformité pour une entreprise de Montréal. Elle posait les pieds au sommet de l'Everest. Je le rappelle, c'est 8849 mètres d'altitude. Et l'alpiniste québécoise couronne ainsi une belle progression en haute altitude amorcée il y a quelques années à peine, après une carrière en ultra-trail. Mais elle a fait ça pour une démarche caritative. Elle a gravi le toit du monde au profit de Filles Actives. C'est un organisme dont je vous parle une fois de temps en temps, qui accompagne les adolescentes pour qu'elles restent actives et développent leur confiance en elles. Sur Instagram, notre alpiniste nous dit qu'elle se confie sur son émotion au sommet. Elle dit « Debout au sommet du monde, je pleure de joie, d'épuisement, de fierté, de tout. Cette montagne m'a tout pris et vous n'imaginez pas à quel point elle m'a tout donné. Je savais à tout moment qu'on le faisait ensemble. C'est pour chaque fille qui a déjà douté d'elle-même. » Alors, vous pouvez aller voir sur LinkedIn et sur Instagram pour plus d'informations. Elle a ramassé des dons pour Filles Actives. Elle a 26 000 $ de ramasser sur un objectif de 100 000.
Merci, Yvan. Il reste 2 minutes, Monique. Est-ce que vous choisissez de nous parler des chats ou de nous faire une capsule linguistique?
On va faire la capsule linguistique. D'abord, Hélène, je réponds à votre question vainqueuse ou vainqueur.
Oui.
En fait, c'est très partagé. Le Larousse nous dit vainqueur. Le multidictionnaire de Marie-Ève de Villers nous dit vainqueur. Et la vitrine linguistique nous dit que la forme régulière est vainqueuse et que, mais on peut aussi utiliser vainqueur.
Bon.
Avec un E. Le Robert nous dit que c'est vainqueuse, mais qu'au Québec, on utilise vainqueur. En fait, on peut utiliser ce qu'on veut.
Morale
de l'histoire.
Beaucoup.
Et la semaine dernière, vous m'avez poser une question, prendre pour acquis, qu'est-ce que c'est ça?
On entend beaucoup.
Encore une fois, c'est un calque de l'anglais. On peut tout simplement dire tenir pour acquis, considérer comme acquis. On pourrait aussi utiliser supposer, présupposer ou présumer. Peut-être que la locution verbale prendre pour est souvent utilisée parce qu'il y a une locution prendre pour qui est correcte, mais qui a le sens de croire à tort. Ou penser à tort, ou considérer à tort. Par exemple, excusez-moi, je vous prenais pour quelqu'un d'autre. Ça, ce serait une utilisation adéquate.
Ah, d'accord.
Et puis, discothèque, ça semble être un bon mot, Hélène.
Oui, pour...
Robert, en tout cas, mais on nous donne comme synonyme boîte de nuit.
OK, donc ça se dit. Je n'étais pas dans le champ quand je disais plus jeune, on s'en va à la discothèque ce soir.
Non, il ne faudrait pas dire disco, ce serait trop familier.
Oui, il y a la musique disco, mais...
trop familier. Okay. Dancing, c'est vieilli. Nightclub, c'est vieilli.
D'accord, bien là-dessus, merci beaucoup. Et dansons et profitons de la vie. À bientôt, Monique et Yvan.
Je joue contre joue.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
C'est la chronique Parasport en compagnie de Dominique Tremblay. Bonjour Dominique.
Bonjour Hélène, comment allez-vous aujourd'hui?
Ça va bien, merci. Et vous?
Ah, pas pire. Un peu déçu, là. Il y a pas mal de sport qui se déroule. Les Canadiens ont perdu pas mal sévèrement hier soir. Donc, c'est un peu la fin à la terre. Puis, je vous ai presque oublié ce matin, là, parce que au championnat du monde de hockey masculin, le Canada rencontre les États-Unis en quart de finale du championnat du monde de hockey, pardon. Et c'est une revanche des Jeux olympiques, puisque les États-Unis avaient battu le Canada à Milan. Puis ben j'ai les deux droits croisés là, pour le Canada plus prendre sa revanche et passer en demi-finale. Donc un peu pas trop paralympique ce matin, mais assez occupé pour le sport.
Oui. Puis je suis bien contente que finalement vous ayez pensé à moi. Alors oui. Dominique, il y avait aussi de la grande visite au Parlement, en fait sur la colline parlementaire hier.
Oui, ben c'est ça. Il y avait 140 athlètes qui ont participé soit aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques qui se sont rendus donc sur la colline parlementaire. En plus, il faisait super beau hier. Là, ça devait être le fun.
C'est vrai.
Ils ont rencontré des ministres, dont le ministre du sport, Adam Van Coverden, était là. Ils ont aussi déjeuné à Rideau Hall avec la gouverneure générale.
Madame Arbour.
Oui, c'est ça. Une de ses premières, peut-être, sorties publiques ou activités publiques. Donc, c'est toujours apprécié, là, cette visite sur la colline parlementaire après chaque Jeux olympiques et paralympiques. Malheureusement, le premier ministre Mark Carney n'était pas sur place, mais qui ont quand même passé une très belle journée.
Oui, je pense qu'il est à New York depuis hier.
Il aime ça se promener.
Oui, il aime les voyages.
C'est cela.
De la grande visite aussi dans les bureaux de CBC cette semaine.
Oui, c'est ça. Mardi, le président du Comité paralympique international était en visite à Toronto pour rencontrer les gens de la Canadian Broadcast Corporation. Excusez mon accent anglais. C'est la version anglaise de la Société Radio-Canada. Ils ont parlé de la couverture des Jeux paralympiques de Milan, qui a vraiment fait une grosse différence. Ça a même battu les chiffres pour la couverture des Jeux paralympiques de Paris, même si les Jeux d'hiver ont beaucoup moins d'heures de compétition et de journées de compétition. Donc, c'est quelque chose. Et puis, je pense aussi qu'on est un peu... on entend souvent la critique là, que les Jeux paralympiques sont pas à la télé. La même chose que les Jeux olympiques. Mais on a quand même une bonne visibilité, sur Internet, où on peut voir toutes les rencontres, toutes les compétitions des Jeux paralympiques sur les sites de Radio-Canada et de CBC. Il y a quand même plus de 1 million de personnes qui ont visionné les compétitions à Milan. C'est un très bon chiffre. Sur les différentes plateformes là, producteurs là, de télévision là, et d'émissions de télé. Mm-hmm. Et la grosse compétition qui a vraiment fait la chose, c'est la finale de curling entre le Canada et la Chine. Ça s'est décidé sur la dernière pierre. Et il y avait 644 000 personnes qui ont visionné ce match-là. Donc, c'est vraiment de très beaux chiffres. Et puis, ça augure bien là, pour les Jeux olympiques de Los Angeles. Et on espère que ça va continuer là, dans cette direction-là. Parce qu'on sent là, que la perception des performances des athlètes change par rapport chez l'auditeur. Là, on commence à voir ça un peu plus comme la compétition sportive, et ça aide aussi à l'intégration là, des personnes handicapées.
Tant mieux. D'ailleurs, le comité organisateur de Los Angeles a dévoilé l'horaire de compétition pour les Jeux paralympiques.
Ben oui, et puis moi, c'est quand même dans un petit peu plus de deux ans, là, les compétitions vont avoir lieu au mois d'août. On parle de plus de 500 médailles d'or qui vont être décernées lors des Jeux paralympiques. C'est le plus gros total de médailles qui va être décerné depuis les Jeux paralympiques de Séoul en 1988. Il y avait beaucoup plus de, de classification, là, différentes compétitions, là, soit en athlétisme, en natation. Donc, c'est pour ça qu'il y avait plus de médailles. Maintenant, là, ça en jette évidemment beaucoup moins de différentes classifications dans les différents sports, là, comme par rapport au, quand je parle de classification, on parle de niveau d'handicap, mais il y a quand même beaucoup plus de sports. On parle de 24 sports à peu près, là, qui vont être aux Jeux paralympiques de Los Angeles. Il va y avoir plus de 1100 heures de compétition qui vont se dérouler là, durant les 15 jours de compétition. Et ça risque d'être très intéressant. Ça vient vite. J'ai hâte de voir là, ce que ça va donner. Et à Los Angeles, c'est la troisième fois que les Jeux olympiques vont être organisés à Los Angeles. Mais quand, mais seulement, on parle de 1932, pardon, 1984 et maintenant 2028, mais ça va être les premières fois que les Jeux paralympiques seront organisés à Los Angeles. En 1984, les Jeux paralympiques avaient été divisés soit à New York ou soit à Stoke Mandeville en Angleterre. Donc, ça va faire du bien d'être à Los Angeles pour l'été 2028.
Oui, ça s'en vient quand même assez vite, hein? Deux ans, là, c'est vite passé. Oui. Alors, Dominique, on va vous laisser à votre para-hockey, mais d'abord, votre pronostic avant de vous laisser aller là, pour demain soir, Canadiens Hurricanes?
Je vais être bien honnête avec vous. Je pense que c'est déjà très bien que les Canadiens se sont rendus dans le carré d'as des finales de la Ligue nationale de hockey. Je pense que si on avait dit au mois d'août que le Canada serait rendu en finale de conférence, personne nous aurait cru. On aurait gagné beaucoup d'argent si on avait parié sur ce résultat. Et ça augure bien là, pour le futur, parce que quand même, les Canadiens ont l'équipe la plus jeune de toute la Ligue nationale. Fait que ça augure bien là, pour le futur.
Merci beaucoup, Dominique. On se retrouve la semaine prochaine, un petit peu plus tôt que d'habitude. Bye-bye.
Oui, bye-bye.
Tu sais, je suis pas malheureux. Sentimental, on peut le dire. Un peu de buée dans les yeux à chacun de mes sourires.
Et si cette vie n'était qu'un jeu? Et si on se manquait de nous? Pourquoi les gens sont si sérieux? Si Dieu existe, elle s'en fout.
Toi et moi, des animaux fragiles. Et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux.
Entre le rire et la tristesse, cette vie nous aura à l'usure.
Faut profiter de sa jeunesse sans jamais détruire son futur.
On me dit de bien me tenir, que c'est une question d'équilibre. Pourquoi j'ai pas le souvenir un jour d'avoir été libre?
Toi et moi, cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Mais on s'imagine une vie facile, et puis qu'on vivra vieux.
Regarde, le soleil brille, on est tranquille, ma main dans tes cheveux. La nuit tout seul, je me balade, mais je ne veux pas t'abandonner.
Sache que si moi je suis malade, ce n'est que de t'aimer.
Toi et moi, des animaux fragiles, et cette planète n'est qu'une île, elle-même perdue dans les étoiles.
Facile, et puis convient.
Regarde le soleil brille, on est tranquille. Ma main dans tes cheveux, ma main dans tes cheveux.
Une chanson que nous a fait découvrir notre collègue bien-aimé Jean-Christophe Matt, Animaux fragiles par Icar et Zaz. Jean-Christophe qui voit beaucoup, beaucoup de spectacles et qui a vu Zaz au Centre Bell la semaine passée. Il était bien déçu qu'elle n'ait pas chanté cette chanson. Alors, on a décidé de lui offrir en espérant qu'il soit à l'écoute. Alors, devant moi, j'ai Hamid Terzi, qui est directeur général de l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal, qu'on appelle aussi ALPHA.
Alpha, oui.
Bonjour, Monsieur Terzi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, je me demandais pourquoi on appelait l'association ALPHA, parce que ça n'a pas rapport avec l'acronyme, mais c'est parce qu'avant, vous appeliez l'Association de loisirs des personnes handicapées autonomes.
Exactement.
Et vous avez décidé de conserver ALPHA.
Oui, parce qu'elle était plus connue sous le nom d'ALPHA, donc on a préservé le nom d'ALPHA.
Bon, alors, cela dit, maintenant qu'on a fait la lumière là-dessus, M. Terzi, quand et pourquoi l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal a-t-elle vu le jour, la mission, puis okay. Ça remonte à quand?
Oui, donc à l'origine, c'était à l'initiative de quelques amis handicapés physiques. Je dirais, parce que c'était informel à l'époque, entre 1978 et 1980. Mm-hmm. Donc, des amis handicapés qui se rencontraient et qui cherchaient une solution pour faire des activités ensemble. Et en 1980, l'ALPHA a vu le jour. Donc, c'est à l'initiative de ces personnes-là. Et ils ont démarré l'organisme avec une subvention de 23 000 à l'époque de Centraide. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, ça fait déjà 46 ans.
Oui, 46 ans.
Exactement. C'est d'ailleurs, nous avons notre Assemblée générale dans le 18 juin
ouais. Pour
célébrer notre 46e année d'existence.
Et vous êtes à Montréal?
C'était à l'est avant, mais là, on est toujours à l'est, mais on est beaucoup plus à Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est dans un édifice communautaire qui s'appelle le Membourg, qui est sur la rue Prince Arthur. Mm-hmm. Et on est là depuis au moins une quinzaine d'années.
Quel genre de service, quel genre d'activité vous offrez?
Donc, nous avons deux programmes, deux grands programmes.
S'adresse aux personnes en situation de handicap physique.
Oui, bien sûr. C'est un programme qui s'adresse aux personnes en situation de handicap. Notre mission principale à l'ALPHA, c'est de promouvoir l'autonomie, l'inclusion et le bien-être des personnes handicapées physiques. Et pour le faire, donc, on a deux programmes. Nous avons un programme de soutien. C'est un programme, donc, c'est la porte d'entrée vers l'organisme. Nous avons deux intervenantes et nous explique les gens quand ils veulent adhérer. On leur explique c'est quoi l'ALPHA. On leur fait visiter. On leur parle de nos programmes. Mm-hmm. Et on va les inscrire s'ils veulent adhérer à l'organisme.
On faut payer pour adhérer.
Oui, on l'a laissé symboliquement à chaque rencontre de CA chaque année. Il y a le changement. Il y a beaucoup d'organismes qui augmentent le membership, mais à l'ALPHA on l'a laissé à 10$. Donc depuis des années ça n'a pas
un
bougé.
Un prix d'amis.
D'ailleurs je reviendrai après pour les activités aussi.
Oui,
on a fait la même chose pour
parler.
Les activités. Ouais. Donc, ça, c'est le programme de porte d'entrée.
Ouais.
Et c'est ces intervenantes-là, donc c'est elles qui font des rencontres psychosociales avec les membres, qui les orientent.
Il y a de l'accompagnement pour avoir de l'information.
Exactement.
Sur,
donc, le référencement.
Le transport adapté.
Le référencement, le transport adapté. Elles sont en contact avec. Parce que généralement, les personnes, c'est des vieilles personnes aussi qui vivent dans des résidences. Et qui ont
c'est votre clientèle principale, les aînés?
Moi, je dirais que 70% c'est des aînés.
Ah oui?
Oui.
Mais vous ouvrez votre porte aux plus jeunes.
Il y a des jeunes aussi.
Il n'y a pas d'âge, vraiment.
Non, il y a okay. Des jeunes aussi. Les intervenantes sont en contact toujours avec les intervenantes de l'ALPHA, avec les intervenantes des résidences. Donc, mm-hmm. Il y a des échanges pour est-ce que la personne se sent bien. On les appelle aussi souvent. Et s'ils sont hospitalisés, on leur rend visite. S'ils ne peuvent pas se déplacer à leur rendez-vous de rencontre au niveau de l'organisme, les intervenants se déplacent.
Mais comment vous savez que ces personnes-là existent? C'est parce qu'elles sont membres?
Oui, nous avons un membership de plus de 300 personnes.
Ah oui?
Donc, nous avons plus de 300 membres. Et je vous dirais que il y a des membres qui sont là depuis plus de 30 ans. Là.
Oui.
Oui.
Et est-ce que vous avez encore de la place pour en accepter d'autres?
Là, on est en train de travailler sur un nouveau projet. Donc, nous avons eu la chance d'être financés cette année avec la Fondation Saputo. Et la demande initiale, c'était pour l'augmentation de capacité. Nous avons, même, je dirais que dans les 300 membres, on ne peut pas recevoir tout le monde. Donc, les personnes réellement actives qui viennent souvent aux activités, une centaine de personnes ou un peu plus.
Oui, donc c'est l'important. Si on veut participer à des activités, l'importance de s'inscrire
exactement.
Est incontournable.
Exactement. Et comme vous pouvez le constater aussi sur la programmation, il y a des activités qui sont limitées. Les places sont limitées pour les activités.
Alors,
donc, on ne peut pas recevoir plus de 15 personnes, par exemple, à la fois. Et pour ces activités-là, il y a une grosse demande. Donc, c'est pour ça que nous travaillons actuellement sur un projet d'augmentation de capacité. Donc, on est en train de mettre en place notre planification stratégique 2025-2028. Et nous allons aller vers un grand projet d'augmentation de capacité. Pourquoi? Parce qu'on veut aller vers au moins, disons, 10% d'augmentation de membership.
Mm-hmm.
Donc, ce qui va se situer entre 30 et 35 personnes, c'est ce que nous visons. Mais pour accueillir ce bon monde-là,
ça prend
des ressources humaines, oui. Ça prend des espaces, il y a beaucoup de choses. Et ça prend surtout de l'argent. De l'argent, exactement. Surtout dans un contexte de déficit budgétaire aux deux paliers des gouvernements. Donc, on est vraiment en sous-financement au niveau de gouvernemental, donc pour la mission. Mais nous avons la chance aussi de travailler sur des projets. Il y a beaucoup de fondations et beaucoup de bailleurs de fonds qui financent des projets qui sont vraiment viables et qui ont beaucoup d'impact sur les personnes handicapées.
Est-ce que Centraide est toujours impliqué dans le financement?
Oui. Donc, Centraide, c'est notre plus vieux bailleur de fonds. Sauf qu'avec Centraide, le financement n'augmente pas, contrairement au PESO qui est celui de CEUS, qui a quand même le coût de la vie qui est ajouté à chaque année. Mais avec Centraide, aussi, nous avons de très bonnes relations. Ils nous aident beaucoup aussi dans la formation du personnel. Il n'y a pas que le financement en tant que tel pour la mission. Il y a beaucoup d'autres choses qu'ils font avec nous.
Mm-hmm. Mais vous avez quand même confiance que vous allez recevoir de l'argent, là, parce que vous avez un projet quand même d'agrandir, d'offrir plus de services, d'activités et d'accueillir encore plus de personnes?
Nous ne sommes pas sûrs, mais nous avons beaucoup de chance de l'avoir. Pourquoi je dis ça? Parce que la Fondation Saputo nous aide beaucoup. Donc, je vois qu'il y a de l'ouverture pour ça. Pour autant qu'on présente un bon projet, ils ont déjà financé la première étape. Et ils nous ont même financé un accompagnant avec un excellent expert parce qu'on voulait savoir quelles sont les chances d'aboutir à une augmentation de capacité. Donc la personne est venue sur place, elle a fait des entrevues avec les membres et donc elle nous a fait des recommandations.
Mm-hmm.
Et sur la base de ces recommandations, nous allons présenter un projet, pas uniquement à Saputo bien sûr, mais on va le présenter en premier lieu à Saputo et on va voir aussi s'il y a d'autres bailleurs de fonds qui sont prêts quand même à aider ces personnes. Pourquoi je dis ça? Ces personnes-là, généralement, parce qu'on a un credo à l'alpha qui dit qu'à l'alpha, je me sens quelqu'un. Quand on parle aux personnes, c'est des personnes très vulnérables qui vivent beaucoup de pauvreté et qui n'ont personne autour.
Donc, isolées souvent.
Très isolées. Et ces personnes-là disent que notre seule famille, c'est l'alpha. Et quand on a sa seule famille à l'alpha et qu'on ne peut pas participer à toutes les activités parce que l'organisme n'a pas les capacités, ça devient frustrant pour les gens.
Je comprends. Puis en plus, vous n'êtes pas ouvert 7 jours sur 7, là.
Non.
Ni 24 heures sur 24.
C'est pour ça, parce qu'on n'a pas les ressources pour le faire. Nous n'avons pas les ressources, que ce soit financières ou logistiques et même au niveau des ressources humaines.
Mm-hmm.
Donc, c'est pour ça qu'on travaille sur ce grand projet-là pour pouvoir d'abord offrir des services et des activités au moins à nos 300 et quelques membres. Et puis là, ce que nous avons constaté depuis quelques temps, c'est un phénomène nouveau à l'Alpha, que même d'ailleurs les employés sont surpris, c'est que d'habitude à l'Alpha, on reçoit disons 5 à 8 membres par année de nouveau.
Ouais.
Cette année, en un mois et demi, nous avons reçu 25 demandes. Si je ne me trompe pas, on m'a donné le chiffre de 32.
Ah,
si je
oui.
Mais moi, je l'ai conseillé.
Imaginez après l'entrevue.
C'est oui.
Donc, ça va éclater.
Donc, il y a beaucoup. La demande est là,
oui.
Mais la capacité ne suffit pas.
Il y a combien de personnes qui travaillent à l'Alpha?
Actuellement, avec la nouvelle chargée de projet, on est 8.
8
permanents.
Oui, 8 personnes.
On était à 6. Et là, avec le financement des autres bailleurs, on est arrivé à 8. Mais moi, je dirais que pour que l'Alpha fonctionne correctement, avec cette demande-là, il faut au moins 12 personnes. Oui.
Alors, je rappelle que je suis en compagnie d'Amid Terzi, qui est le directeur général de l'Association d'entraide des personnes handicapées physiques de Montréal, qu'on appelle aussi l'Alpha. Ce week-end, il y a une fête famille de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Est-ce qu'il y a encore de la place?
Oui, c'est pour cette activité-là, c'est ouvert à toutes les personnes du quartier ou même des environs qui veulent venir. Donc, l'Alpha sera présente à cette fête-là. On est partie prenante dans l'organisation aussi. Donc,
ça se déroule au parc Saint-Jean-Baptiste à Pointe-aux-Trembles.
Exactement.
Parlez-nous de l'activité Marche et roule.
Oui, marche et roule, c'est une activité d'exercice physique. On fait marcher parce que nous avons un excellent boisier à côté de l'Alpha. Et nous avons une vingtaine, parfois 30 membres qui font la tournée. Donc, ils viennent à l'organisme. Parce qu'en été, on fait beaucoup d'activités à l'extérieur,
oui,
contrairement à l'hiver. Donc, c'est les parcs, les marches. Donc, ça, c'est un exercice de marche où les membres sont accompagnés. Il y a deux groupes de membres qui sont accompagnés par des animateurs.
Oui.
Donc, il y a un groupe qui a de l'endurance qui va faire un grand tour de marche. Et il y a un autre qui va faire un petit tour. Et on se rencontre tous dans un parc. On va jaser, on va manger et on va discuter.
Au chalet du parc Bellerive, c'est le lieu de votre rendez-vous. Il y a un bingo, l'exploration du parc La Fontaine. Vous allez aussi au marché Jean Talon.
Ça, c'est une excellente activité que les membres adorent, avec les saveurs, les odeurs de tout ce qu'il y a au marché. Donc, c'est une activité qui est très prisée aussi.
Le spécial crème à la glace, ça m'intéresse. C'est le lundi 29 juin.
Ouais.
Et il faudrait, avant de continuer de parler des activités, racontez-nous un peu ce qui va se passer lors de votre Assemblée générale. Ça s'en vient?
Oui, l'Assemblée générale, c'est le 18 juin. Donc là, il va y avoir beaucoup de membres. C'est une activité, c'est une assemblée qui regroupe jusqu'à 100 personnes parfois. Nous avons des invités, bien sûr, les députés qui sont là, l'arrondissement est représenté, les membres sont là, les membres du CA aussi, et le personnel.
Un moment donc, important là,
un
pour
moment
faire
important
valoir.
Pourquoi? Parce que, comme c'est un organisme communautaire, donc la décision, c'est l'Assemblée générale qui prend toutes les grandes décisions. Donc, c'est à cette rencontre-là que nous allons parler du rapport annuel, ce que nous avons réalisé durant l'année, l'argent que nous avons pu ramasser, toutes les activités que nous avons faites. Et il y a beaucoup de prise de parole des membres qui font aussi qui critiquent parfois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les activités,
ouais.
Mais qui font d'excellentes propositions. Moi, j'ai toujours été surpris par ces personnes-là au niveau
des
commentaires et surtout des propositions d'activités.
Ah, oui.
C'est vraiment incroyable. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Avant la planification stratégique, moi, j'avais des doutes. Moi, j'ai fait les grosses organisations avant de venir à l'Alpha. Je suis habitué à des planifications stratégiques de grandes organisations avec des personnes d'un certain niveau. Mais quand je voulais amorcer la planification à l'Alpha, je me disais, vu la clientèle que nous avons et puis les sujets, ce que ça demande comme exercice de réflexion, j'étais un peu sceptique. Je me disais, c'est pas possible.
Et vous avez été confondu.
Ben oui, quand on a été accompagné par le centre Saint-Pierre, ils étaient aussi surpris. Quand j'ai vu le résultat, je peux vous dire que c'est pas possible. Là, c'est vraiment ce que j'imaginais dans ma stratégie à moi en tant que directeur général. C'est ça que j'ai retrouvé dans les commentaires et dans les propositions de nos membres. C'est vraiment pour vous dire qu'il y a un bassin quand même important à ne pas négliger.
Oui, il faut être à l'écoute aussi des personnes en situation de handicap physique parce que c'est elles
parce que c'est eux qui vivent
l'expérience, qui sont complètement concernés. Et puis, je voulais aussi parler de l'activité à vos moutons au Parc Maisonneuve. C'est le 30 juin au chalet du Parc Maisonneuve. Alors, vous pouvez apporter votre lunch, vous pouvez pratiquer vos bêlements. C'est ce qui est écrit sur le communiqué. Mais enfin, ce ne sont pas les activités qui manquent. Il y a aussi le retour du téléphone d'urgence de l'Alpha. Qu'est-ce que c'est exactement? Il ne reste pas beaucoup de temps là, en 30 secondes.
Oui, non, bah parce que nous avons des téléphones fixes et puis les animateurs recevaient beaucoup d'appels personnels. Donc, pour couper court à ça et puis pour accommoder aussi le personnel, nous avons mis en place un nouveau numéro de téléphone d'urgence où les membres peuvent appeler en tout temps.
Parfait. 514-795-5119. 514-795-5119. Il y a un café rencontre Semaine des personnes handicapées. Hein? Ça s'en vient là, du 1er au 7 juin. Et ce café rencontre-là va se faire à l'Alpha, dans vos locaux. Vous nous avez donné votre adresse précise tantôt, je pense pas. Hein?
Oui, c'est le 14. Ben, je ne l'ai pas donné, mais c'est le 14-115 rue Prince-Arthur, à Pointe-Tremble, au bureau 163. Donc, c'est un grand édifice communautaire et c'est là que nous avons notre organisation.
Bien, bonne chance pour la suite des choses. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance. On va vous réinviter certainement, Hamid Terzi, directeur général de l'Alpha. Merci.
Merci beaucoup de nous avoir donné cette occasion-là.
À la prochaine.
Merci, au revoir.
Le Festival Transamérique, le FTA, commence aujourd'hui et ce jusqu'au 10 juin, une édition qui va présenter 25 spectacles de danse et de théâtre venus du nord au sud du continent, réunissant des artistes de 18 pays, dont l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, les États-Unis, la Guadeloupe, l'Haïti, le Mexique, le Québec, le Canada, avec une exception notable, le Kirghizistan. Et on commence ça en grand ce soir avec la pièce Baldwin and Buckley at Cambridge, deux visions du monde qui s'affrontent dans un débat rendu mythique par les images d'archives. Ça se passe à la 5e salle de la Place des Arts. On aura l'occasion de reparler de ce festival puisque j'aurai des entrevues avec des artistes qui font partie de la programmation dès la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Ici Hélène Denis. Merci Mathieu Tessier. C'est Denis Martin qui sera avec vous lundi. On se retrouve mardi, 9h30.